bienvenue chez les Papous de France Culture jusqu'à 13h59. À l'affiche, le limogeage est de toutes les saisons. Exemple avec Odile Conseil, suivi d'un exercice de détestation par Sophie Divry et d'une lettre de vacances selon Ricardo Mosner.
Je suis parti prendre de l'air. Je suis foqué, tu l'avais compris, puisque tu m'avais dit tu feras bien de prendre de l'air. Je ne suis pas allé à Madagascar, mais à Vitry. Ni en Birmanie, mais à Bagnolet, ni dans les steppes de Mongolie, mais au petit Clamart, dans une chambrette.
Viendra l'heure d'une nouvelle invention de Léonard, le petit Vinci, du jeu des bourrimés et de leurs critiques pour les apprentis poètes Jérôme Clément et Hervé Le Tellier. Le recueil d'Hervé Le Tellier, commenté par Jean-Bernard Pouy.
Un poème, Toi dans la gare Saint-Lazare, de ce recueil, est tout à fait représentatif de son style, si recherché par les grandes amoureuses et leurs chevaliers servants, pas besoin de passer par la case départ pour toucher le cœur des midinettes et des grands couillons qui le regardent énamourés.
Enfin, Patrice Delbourg nous parlera d'un livre des papous, Le Merle. Françoise Tressart et la belle équipe vous saluent bien. Merci de votre fidélité. Et vous, les nouveaux, entrez dans la bande, rejoignez-nous sur Facebook, entre amis. Le podcast, la réécoute, c'est sur franceculture.fr, à la page des papous. Et pour ouvrir ce numéro du 26 juin où il sera question d'amour et de désamour, penchons-nous sur l'épineux problème du limogeage. On se fait dégager à toutes les époques, c'est violent, c'est douloureux, on ne vous aime pas ou plus, on délocalise, on restructure, on change les têtes. On vous le fait savoir en recommandé, on, c'est là où le DRH qui assume. Peut-on jouer avec un sujet aussi sensible ? Démonstration avec Odile Conseil et Jean-Bernard Pouy. Votre personnage, Odile.
Je suis la DRH d'une société un peu particulière qui s'appelle La Famille et j'écris au directeur. La Famille, c'est une SARL, une société aléatoire à ressentiment large.
Ah, oui.
Monsieur le directeur de La Famille, mon cher papa. Mandaté en tant que DRH par le conseil d'administration de La Famille, je suis dans l'obligation aujourd'hui de procéder à une tâche bien pénible, mais hélas nécessaire. J'espère que tu m'excuseras, mon cher papa, de m'adresser ici uniquement au directeur de La Famille et en conséquence d'utiliser le vouvoiement de rigueur. La Famille, constatant les manquements répétés dont vous faites preuve à votre poste, a décidé de se passer de vos services à compter de la fin du mois. Vous perdrez donc votre titre de chef de famille et tous les avantages qui lui sont attachés. Avantages acquis au fil de l'histoire, il faut bien le dire, par la force physique plus que par des négociations avec vos partenaires familiaux, comme le voudraient les pratiques d'aujourd'hui. La décision qui vous concerne ne se base pas sur un simple ressenti ou sur des impressions, mais bel et bien sur des faits réels et précis, vous les trouverez listés ci-dessous. Nous vous rappelons au préalable que vous avez déjà reçu plusieurs avertissements, en particulier de la directrice adjointe qui, au cours des derniers mois, vous a prévenu plusieurs fois. Roger, ça ne peut plus continuer comme ça. Roger, moi je craque là, est-ce que tu ne pourrais pas pour une fois débarrasser la table? Roger, viens avec moi faire les courses, au moins pour porter les packs d'eau et les caisses de vin. En dépit de ces avertissements qui auraient pu vous faire réagir et changer d'attitude, qui auraient dû vous voir tenter de vous amender, de redresser la barre, de regagner la confiance de la collectivité humaine que représente la famille, vous n'avez rien modifié à vos façons de faire. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous maintenir à ce poste. Voici, comme je vous l'annonçais plus haut, une liste non exhaustive des manquements qui vous sont reprochés. Avoir raté le spectacle de fin d'année de Noémie au prétexte d'un rendez-vous important chez votre autre employeur. Avoir manqué le gala de danse de Julien et Clémence sous le même prétexte. Avoir raté la démonstration de karaté de Céleste toujours pour la même raison. Ce prétexte ne trompe personne, un peu comme ceux qui ont toujours une vieille tante à enterrer pour justifier leurs absences. Il fait en outre preuve d'un manque d'imagination certain. Avoir imposé à la famille vos tapageurs amis buveurs de bière un nombre incalculable de fois, matchs de foot, de rugby, tournoi de tennis, Tour de France et même le championnat annuel de curling. N'avoir jamais appris à ce jour le fonctionnement, pourtant relativement simple, du lave-linge, du sèche-linge, du fer à repasser et de sa centrale vapeur, du robot ménager qui coupe tranches pétries et malaxe, de la sorbetière, de la yaourtière, du ratatine ordure, de l'efface poussière et de la tourniquette à faire la vinaigrette. Laisser régulièrement des poils de barbe dans le lavabo et des chaussettes sales un peu partout, sauf dans le panier à linge. N'avoir jamais, jamais lu un conte de fées ou une quelconque histoire du soir à l'un ou l'autre des plus jeunes membres de la famille, Noémie, Julien, Clémence, Céleste et moi-même, quand nous étions en âge de les apprécier.
Quand même, il a pris le temps de faire 5 enfants. Hein.
Vous savez, ça va vite hein, pour faire les enfants. C'est les élever qui est difficile, François.
On lui a donné le droit d'en faire 5, c'est ça.
N'avoir jamais entraîné la famille à pratiquer le camping sauvage, à ramasser des champignons, à accueillir des bouquets de jacinthes sauvages, à observer des étoiles filantes allongées dans l'herbe par une nuit d'été, à construire des châteaux de sable et des barrages, pas forcément contre le Pacifique, mais contre la Manche ou la mer du Nord, tout simplement. N'avoir jamais emmené la famille manger des sauts de pop-corn au cinéma ou faire griller des brochettes de chamallows sur un feu de camp. N'avoir jamais fabriqué un bonhomme de neige avec vos jeunes collaborateurs, même les années où il y avait de la neige. Avoir enfin, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, récemment menacé de fesser Julie, votre plus jeune collaboratrice. Votre position hiérarchique au sommet de la famille ne vous autorise en aucun cas ce genre de comportement vis-à-vis d'un subordonné. L'addition de ces manquements constituant une faute lourde, vous n'aurez droit à aucune indemnité de départ. Vous veillerez à vider votre espace afin de le laisser propre et net pour celui ou celle qui vous remplacera. Vous perdez évidemment aussi le droit à la cantine de la famille et au cadeau de Noël. Croyez, monsieur le directeur, que nous ne prenons pas cette décision de gaieté de cœur. Vos 15 années d'ancienneté avaient pu vous laisser croire, comme à nous, que vous finiriez sereinement votre carrière au sein de la famille. Mais nous sommes persuadés que vous profiterez de cette situation pour prendre un nouveau départ et trouver une nouvelle famille ou exercer vos talents. Pour la famille, la DRH.
C'est violent, hein. Mais quand même, je reviens à l'histoire des enfants. 5 enfants en 15 ans, ça fait un tous les 3 ans. Je pense qu'elle était un petit peu maso, madame la directrice.
Disons qu'elle a pris une...
Il lui a fallu une
prise de conscience un peu tardive, oui.
Oui, parce que je
elle y a cru, non, mais elle y a cru longtemps, sans doute.
Je suppose qu'entre les 5 enfants et elle, il y a connivence, quoi. Ils sont tous d'accord. Ça a été voté à l'unanimité.
Oui, ça, c'est le conseil d'administration de la famille, c'est eux tous.
Ils ont dû demander une augmentation et
comme c'est pas passé.
Ils attaquent.
Vengeance.
Normal, vengeance.
Bah, ça sent sûrement la vengeance, Jean-Bernard Puy, et c'est vous qui êtes concerné, puisque c'est vous, Roger.
Roger. Pas Roger.
Alors, est-ce que vous répondez à la structure familiale qui vous limoge?
Oui. Ah oui, je réponds, oui. Mes chers administrés,
ah oui.
Avec une petite pensée particulière pour toi, Camille, ma DRH préférée, qui a pris le temps de rédiger le rapport, que dis-je le rapport ? Le torchon soi-disant de licenciement, au lieu de faire tes devoirs, je te signale que ton dernier bulletin scolaire est désastreux et que tu risques toi aussi un licenciement global de ton collège privé, que je paye les yeux de la tête, tout ça parce que tu t'es fait jeter partout. Donc, on me licencie, j'accepte cette décision collégiale. Pour les indemnités de licenciement, je serai grand seigneur. Je m'en tiendrai à 15 ans de peau Nutella, 6 smartphones et les 45 paires de Nike à semelles lumineuses. Étant signataire du bail de l'appartement, j'accepte désormais d'y vivre seul, puni. Puni, mais pas démuni. J'ai l'intention d'y loger à votre place une autre SARL, c'est une société à renouveau ludique, celle de Catherine, ma secrétaire particulière, accompagnée de ses 2 enfants en bas âge. Ce qui signifie que vous devez vider les lieux dans la quinzaine. En tant que licencié quasi économique, je me vois dans l'obligation de vous couper les vivres. À partir de demain, mon banquier se chargera de supprimer les virements automatiques. Je m'en servirai pour payer les 2 femmes de ménage de Catherine qui se chargeront de régler tout ce qui vous aurait encore dérangé, le ménage, la vaisselle, les courses et tous ces ennuis du quotidien que je n'ai pas le temps d'assumer vu que je dois travailler comme un bœuf pour tout payer, les cours de danse, de karaté et surtout de payer l'électricien venant changer les plombs du compteur que Julie avait fait sauter en tentant de remplacer une ampoule à vis par une ampoule à baïonnette. Une nouvelle vie s'offre à moi. Les enfants de Catherine se moquent des contes de Noël, ayant chacun des ordi portables et des smartphones avec lesquels ils s'amusent beaucoup. Mais je suis magnanime. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. En fait, je vous laisse 15 jours pour vous retourner et choisir vos nouveaux bureaux.
Oui.
En effet, je pars une semaine avec mes potes, tous des licenciés de leur SARL personnel d'ailleurs, en Alsace, où nous avons prévu de faire la route des vins. Et la deuxième semaine, pour une fois dans ma vie, je vais déserter les plages glaciales du Nord pour passer une semaine avec Catherine et ses enfants en Espagne, sous le soleil andalou. Quant à vous, tentez, si vous le pouvez, de vous trouver un nouveau directeur aussi coulant et compréhensif que moi. Et un peu plus débile, je le précise, un directeur qui accepte, quelle horreur, de faire griller des brochettes de chamallows sur un feu de bois mouillé en plein hiver au camping de Dunkerque. Je vous souhaite bon courage dans la vie en général. Je vous remercie aussi d'avoir pris, pour la première fois, une décision juste et courageuse. Papa Roger, ex-directeur.
Ah, c'est bien envoyé quand même. Alors, vous voyez, autant j'avais un peu de sympathie pour lui quand j'écoutais votre lettre, Odile. Je trouvais que vous étiez un peu violente. Mais finalement, il est un peu salaud. Hein.
Il est un peu revanchard, oui.
Oui, oui, oui. Est-ce que vous allez essayer de le reconquérir ?
Non, non, je pense qu'on va essayer de monter un coup pour que ce soit lui qui parte quand même.
Ça va être difficile, hein, parce qu'il a l'air très motivé.
Oui.
Bon, pas plus que ça.
Ah, très motivé pour ne pas la reprendre, oui. On weekends she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Pink Martini.
Vous avez des papous dans la tête ? Essayez France Culture.
En piste, pour l'instant, Sophie d'Ivry pour un exercice de détestation. Alors, naturellement, l'admiration, c'est bien mieux. Mais parfois, être mal aimé par certains est assez valorisant. Sophie, elle est accro à beaucoup de choses, mais elle n'est pas faite d'un seul bloc. J'aime tout, elle est normale. Il y a des choses qui l'agacent et la font tourner allègre. Et aujourd'hui, elle clame son non-amour. Sophie d'Ivry, alors, pas contente, hein ?
Non, je suis pas contente. Ça va pas du tout. J'ai une vie très difficile, il faut dire, dans mon cas, parce que je n'aime pas les pommes.
Les pommes, le fruit ?
Les fruits.
Parce que... Apple ?
Non. Ah bah oui. Mais il faut bien dire ce qui est, hein, la pomme. C'est quand même le fruit le plus con. Un truc rond, plein, uniforme, qui se coupe bien, qui a une chair toute lisse. Il n'y a pas de surprise dans une pomme. Il n'y a pas de noyau un peu caractériel. Il n'y a pas de jus, comme dans la cerise. Et c'est balourd, une pomme. Ça n'a pas la légèreté de la framboise. Ça n'a pas l'originalité de la noix de coco. Et ça n'a même pas la forme un peu tordue de la poire. Elle fait un effort, la poire. Franchement, la pomme, elle ne fait aucun effort pour se faire aimer.
Bah, elle a une petite queue, quand même.
Alors, j'aime pas.
Justement.
Alors, je vais devoir vous faire une confidence, Françoise.
Oui.
De ce fait, par mon aversion antipomique, je suis persécutée. Eh oui, non, je suis persécutée, il faut que je vous le dise ici. Car l'humanité croit conduire le monde, mais en vérité, ce sont les pommes. Ce sont elles qui dirigent nos civilisations. Sans tomber dans le complot, hein, il faut le dire, elles sont partout. Déjà, ça commence très tôt. Enfant, je détestais les goûters où maman sortait des golden et hop, débarrassée du problème.
C'est bon la golden.
Il fallait chacun partir avec cette espèce d'œuf dur vert et la manger en se décrachant la mâchoire. C'est quand on a 6 ans, comment on fait pour manger une pomme comme ça, qui est aussi grosse que votre tête? Et on me disait, ah, gna gna gna, pas de tartine au Nutella, mange d'abord une pomme.
Ah bah,
puis après, ben, y a plus rien. Voilà. Et encore aujourd'hui, hein. L'impératif diététique, manger des pommes. Halte à la tyrannie pommière. Mais je vous dis, c'est très difficile, quand on n'aime pas les pommes, de tenir dans ce fichu pays. On les voit partout.
Mmh.
Les enfants avec leur compote en sachet, là, qu'on aspire. Là.
Ah oui.
Hein, la tarte au restaurant, le boudin qui sort jamais sans elle, et que tu veux un jus et goûte à mon crumble, des pommes partout. Et toute l'année. Le pire, c'est l'hiver, bien entendu. Dans cette période maudite entre la fin des châtaignes et les premières fraises. Qui est-ce qui se la ramène, toute joufflue sur le marché à ne jamais quitter la place ? Ben, c'est sa pomme. Alors j'ai essayé, hein, j'ai fui. J'ai essayé la fuite dans l'art. Mais on ne peut pas se promener dans un musée sans qu'elle soit là. Toute fière, hein, dès les murs de Pompéi. Hein, et qu'elle se prélasse chez Caravage et dans leur joli panier chez Cézanne. Et que je me cache derrière la cafetière chez Van Gogh. Et qu'on me coupe en deux chez Picasso. Partout, la pomme ramène sa fraise. Moi, je vous dis, hein, elles ont pris un melon comme ça. Ce sont elles, avec discrétion et autorité, qui nous dirigent, qui façonnent nos cerveaux. Mais oui, Françoise.
Je suis un peu
regardez-les, si, elles sont à la base de tout.
Ah bon ?
Le verre était dans le fruit, mais
oui.
Quel est le fruit, hein ?
La
c'est
pomme.
Une pomme, oui. S'écrit Adam à Ève dans le jardin. Et Blanche-Neige, dont on lave le cerveau à nos enfants. C'est pas un kiwi, hein, qu'elle croque. Hein. C'est pas une banane qui tombe sur la tête de Newton. Elles sont partout. Alors je divague, ma persécution me pourchasse. Qu'est-ce que la Terre, si ce n'est une grosse pomme qui tourne dans la galaxie du grand compotier ? Et nous sommes les pépins. Et le grand éplucheur va venir nous scalper. Que le grand cric me croque. Ah, parfois, ça m'effraie tant que j'en tombe dans les pommes.
Elle aime vraiment pas ça. Je vous ai vu un peu outré, Patrice Delbourg.
Mais oui, c'est quand même
Quand on regarde Sophie avec son teint, son regard fervent, son sourire nacré, c'est la pomme qui lui a donné ça.
Et son adolescence. Ses petites pommettes de chaque côté, sous son regard.
Non, je suis un enfant de la cerise.
Non, vous êtes un enfant de la golden, de la gala.
Et de la golden délicieuse, même.
La Pink Lady.
Oh, la Pink Lady. Ouais. Elle est bonne, elle est acidulée, elle est croquante, elle est magnifique.
Elle est juteuse.
Ah ouais, la Pink.
Mais c'est vrai, Valmassi, il y a tellement de bonnes pommes. Et Sophie Divry n'aime pas les pommes, c'est son droit. Que vous lui répondez?
Mais je lui réponds, je vous réponds. La pomme, c'est moi. Et Valmassi veut dire Ève de la pomme. Et
oui,
c'est ma troisième fruit préféré. Après, en premier, la pastèque. En deuxième, la cerise. Où on se rejoint, et donc en trois, la pomme. Je corrige, les pommes, au moins 33 sortes. J'attends le mois d'août, tiens, pour un croisement récent, une pomme suisse, la Galmac, et le mois de septembre, pour mes Falstaff ventripotentes, et octobre, pour ces transparentes qui sont une variété ancienne à la peau d'ange. Je mange mon poids de corps de pomme par an, soit un peu plus de 50 kilos, ça ne fera toujours qu'un kilo par semaine. Mais je ne suis pas venue pour louer la pomme. Elle se défend d'une part toute seule très bien, et d'autre part, je ne vous ferai pas cet outrage. Tous les goûts sont dans la nature et la pomme n'est pas si naturelle. Sauvage, elle est petite, verdâtre et astringente. Non, je veux vous enlever juste une épine du pied. Une épine que le pommier n'a pas, quoique de la famille des rosiers ou des rosacées. Pour certains, plus précisément un certain John Allegro, chercheur de son état, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas ce fruitier de vos ennemis. Pour lui, force développement à l'appui, c'est le champignon Amanita tue-mouche, Amanita muscaria. Sa drogue prisée par les chamans décuplerait les capacités cognitives et donnerait des visions divinatoires. Pardonnez la modestie de ma contribution. Au goûter, je n'ai mangé qu'une simple pomme, pas croqué une amanite.
Ah ben elle vous donne une piste quand même, hein, de compensation.
Une pomme en moins, c'est déjà oui, ça de
oui,
gagner.
Oui, oui.
Je ne vais pas lui lancer les tomates, mais les pommes, ça ferait plus mal. Donc je...
C'est-à-dire c'est très difficile de les inviter ensemble à dîner. Quoi.
C'est délicat, mais ça vaut une bonne cote. Oui.
Parce qu'on peut manger des cerises, mais est-ce qu'on peut manger des cerises toute l'année?
Mais non. C'est ça notre chagrin intime.
C'est d'où la supériorité de la cerise sur la pomme? Un fruit qu'on peut manger toute l'année, c'est pas un fruit.
C'est banal, c'est un fruit banal. Ouais, c'est-à-dire que les pommes viennent de partout, toute l'année, elles ne sont pas juste de chez nous.
Non, mais ça se conserve bien dans une cave froid, ça se conserve tout.
Oui, c'est vrai. Vous êtes dubitatif.
Non, c'est magnifique la pomme, c'est bon pour le transit, ça donne une bonne haleine, c'est excellent pour la vue, ça a des vertus thérapeutiques extraordinaires. Alors que la cerise s'attache les doigts, on avale le noyau, souvent elles sont un peu pourries de l'intérieur.
De toute façon, pour vous, pomme a donné pommade. La pommade.
Nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce
que c'est que pour les gens dans votre genre, les hypochondriaques.
Dans l'œsophage, un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait, petite tête, ôte-toi de la cumimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Miam, miam.
Serge Gainsbourg. Quand on aime les autres et qu'on s'éloigne d'eux pour cause de vacances, si on est un peu délicat, on leur écrit une bonne lettre manuscrite sur une feuille de papier. Pas besoin d'ouvrir son ordi ou son smartphone pour y accéder. On la glisse dans sa poche. Elle y est disponible pour la relecture jusqu'à plus soif. Alors Ricardo Mosner, quelle chance, déjà en vacances, c'est bon ?
Oui.
Vous avez laissé quelqu'un derrière vous,
oui,
à qui vous avez envie d'écrire ?
Oui.
C'est qui ?
C'est cher Marie.
Marie ?
Marie, oui. Je suis parti prendre de l'air. Je suis foqué, tu l'avais compris, puisque tu m'avais dit tu ferais bien de prendre de l'air. Maintenant, mon souci, c'est de trouver. Non, pas de l'air, il y en a partout, sauf chez nous, apparemment. Non, mon souci, c'est de trouver une destination qui me convienne. Pour le moment, je suis au coin de la rue. Alors je me demande si je ne devrais pas partir à Londres, comme ton ami Lancaster me l'avait conseillé. Mais tu disais que j'avais l'esprit très latin, que les appartements étaient petits et qu'à l'extérieur, la bruine allait m'étouffer davantage. En pensant à tout ça, j'ai marché. Et maintenant, je suis au bord de la Seine, à Ivry. Peut-être que je pourrais rester par ici, trouver une piole et écrire tous les jours, puis de temps en temps, puis disparaître dans la nature sans laisser d'adresse. C'est mon plus grand souhait. Dans ce cas, qui me semble l'issue la plus plausible, je voulais te dire que les tiroirs de gauche de mon bureau, celui qu'on ne peut pas ouvrir, contient un double fond où se trouvent une dizaine de manuscrits. Ils racontent mes 10 derniers voyages. Chaque fois que j'étouffais et que je partais, j'y ai transcrit mon séjour. Et c'était chaque fois comme aujourd'hui. Je ne suis pas allé à Madagascar, mais à Vitry, ni en Birmanie, mais à Bagnolet.
Ah bah oui, c'est autre chose, pas mal, hein.
Etc. Bref, ni dans les steppes de Mongolie, mais au petit Clamart, dans une chambrette. Tous mes récits d'aventure que tu appréciais tant étaient et sont faux. Évidemment, je ne pouvais pas te dire que je partais de notre asphyxiant logement pour rejoindre une minable chambre. Alors, je te racontais des rocambolesques voyages dans des lieux exotiques. Ce n'est pas par souci de vérité que je t'ai dit tout ça, mais c'est parce que j'ai besoin de mes textes. Évidemment, si je t'avais dit que je me suis assis tout l'après-midi à regarder par la fenêtre qui donne sur le mur crasseux et que quelques particules de poussière virevoltaient dans la pénombre et que considéraient leurs mouvements répétitifs mais hasardeux occupaient mon esprit dans la joie la plus immense, je ne sais pas si tu aurais trouvé ceci enthousiasmant. J'aime passer des longues heures dans l'inertie, observer ce qui se présente devant mes yeux à ce moment, puis le décrire avec les moindres détails. Entre tes allées et venues en permanence, les passages de Lancaster et autres voyageurs du quartier, et dès que nous nous trouvions seuls, te demande de te raconter quelque chose d'excitant, je n'ai jamais pu me concentrer et je finissais par suffoquer. Chose qui ne m'est pas désagréable en soi. Suffoquer et raconter, c'est ma vie, mon taf, mais j'aurais bien aimé pouvoir m'asseoir à suffoquer dans une paisible détresse, puis noter tous les détails dans les calmes sordides de notre taudis.
Mais c'est affreux, vraiment.
Bien sûr, cela ne m'était pas possible, parce que dans ces situations, tu me suggérais d'aller prendre l'air. Bref, cette dernière ou avant-dernière missive pour te demander de m'envoyer mes manuscrits à... Les tiroirs se débloquent avec un tournevis, ne te blesse pas. À la poste restante, je suis plus à Ivry, mais j'ai marché jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés, donc à la poste restante de Saint-Maur-des-Fossés, je finirai ma trilogie du néant avec 2 derniers récits. Puis j'ai une proposition pour tirer un film d'ambulation sans transcendance en banlieue proche d'après ces textes. Et également un projet d'installation d'un dispositif sonore et visuel, je ne sais pas si je dois l'appeler retransmission d'une quiétude ou une vie sans mobile apparent. J'aime bien les titres longs. Qu'est-ce que tu en penses? Finalement, peut-être qu'on pourrait continuer à communiquer par lettre. On verra. Entre-temps, je te remercie d'avance de m'envoyer rapidement mes manuscrits. Ricard Dolans.
C'est une lettre magnifique, totalement désespérée, évidemment. Elle vous a supporté combien de temps, Marie, Ricardo?
Bah, je crois qu'elle me supportera toute la vie encore.
Parce qu'elle vous aime, c'est ça?
Bah, ouais. Elle aime bien mes récits.
Oui, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça.
Ben non, qu'il aille prendre l'air, effectivement. Et puis on...
Ça fait toujours du bien dans un couple.
On verra dans 6 mois. Hein. Oui. Voilà, si on peut respirer à nouveau. Parce que là, c'est étouffant. Hein.
Oui, absolument. Puis on voit tout de suite avec vous, d'ailleurs, parce que vous êtes la petite Marie, la jolie Marie.
Pas du tout, non. Non, je ne sais pas du tout la petite Marie. Non, non.
Non. Mais Marie n'a pas répondu à Ricardo.
J'ai pas l'impression, non. Moi, je suis le gardien de l'immeuble.
Ah oui, aucun rapport.
Monsieur Rechampy.
Rechampy.
Hervé Rechampy, le gardien
oui.
de l'immeuble.
Oui.
Donc, j'ai...
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Il s'est passé quand même beaucoup de choses.
Ouais.
Donc j'écris à Monsieur Ricard.
Oui.
Hein, à la poste restante.
Ouais.
Quelle aventure. Alors je commence au début. Ce n'est pas que je sois indélicat, mais vu que l'été approchait, je ne pouvais pas me permettre de laisser votre lettre sous le paillasson. Parce que ça donne des indices aux voleurs.
Ouais.
De nos jours, rien n'est sûr. Et comme disait Sénèque, Timeo Colissimo et Donna Ferrantes. Et comme je ne pensais pas non plus devoir la garder par devers moi parce que les cambrioleurs, en la trouvant en tas avec les autres, auraient su que vous n'étiez pas là, j'ai pris la responsabilité de l'ouvrir.
Ah, oui.
C'est une mesure de sécurité indispensable que n'importe quel citoyen qui n'a rien à se reprocher peut comprendre. Comme disait Boileau, les gens honnêtes n'ont rien à cacher. Et une fois qu'une lettre est ouverte, c'est dommage de ne pas la lire, surtout par respect pour son auteur, et d'autant plus si celui-ci est une personne honorable comme vous l'êtes. Ah, le poids des mots. Ah, juillet, le mois des pots qu'il faut arroser dans la cour. La vérité est que ce courrier nous a d'abord fait de la peine à Madame Rechampy et moi-même. Non, mais c'est une véritable déclaration de guerre que vous nous faites. Je vous cite. « Le calme sordide de notre taudis, les murs crasseux, l'étouffement. Alors que nous procédons, Madame Rechampy et moi-même, au nettoiement hebdomadaire de toutes les parties communes. Oignez vilain, il vous poindra, comme disait Clémenceau. Heureusement que votre lettre assassine n'était pas tombée dans les mains de notre syndic, car c'est notre tête qui serait tombée sur le billot. Vous nous avez fait peur. Mais ensuite, comment dire ? L'essentiel est invisible pour les yeux, comme disait Beethoven. Nous avons découvert vos manuscrits, votre secret, votre récit rocambolesque de l'île au trésor. Madame Rechampy m'a dit que, je cite, « sous le masque triste d'un homme médiocre à l'allure flasque ». Oui, c'est ce qu'elle a dit.
Ah oui, elle est un peu sévère. Mais bon.
Elle a ajouté que sous ce masque se cachait l'âme d'un aventurier. « Aux saisons, au château, quelle âme est sans chapeau ?» disait saint Augustin. Alors, elle est partie vous rejoindre à Madagascar.
Madame Rechampy.
Oui, ou à Tegucigalpa, je ne sais plus, enfin.
Oui.
Dans ses rocambolesques aventures exotiques. Et moi, je suis resté seul. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, disait William Shakespeare. Aussi, quand Marie, votre épouse, est revenue du UK, c'est comme ça qu'elle dit.
United Kingdom.
Sans doute.
Oui.
Moi, je ne sais pas. Las de son Lancaster, je lui ai proposé une balade. Nous avons marché le long de la Seine, comme dans une chanson de traînée. Et nous voilà tout près du bois de Vincennes, le cœur léger, le cœur battant. Comme dit Michelet, l'amour est un enfant d'un autre lit. Merci pour tout, Ricard, et bel été à vous.
Oh, c'est sympa, hein, comme lettre, très sympa. Finalement, il s'est occupé de tout.
Chacun,
hein.
Chacun y trouve sa place, c'est bien.
Bon, c'est l'amour d'été, hein.
Amour d'été, mais qui peut durer.
Oui.
Qui peut durer, parce que ça commence comme une très belle histoire.
Ça peut durer une éternité.
Petit commentaire, Gérard.
Non, je suis très ému. Je trouve que c'est très beau ce qui s'est passé parce que monter comme ça les marches des citations et des citations
oui.
pour arriver à l'amour, oui, c'est magnifique.
Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, ce petit chemin que voici.
Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous. Ils donnent leur fête.
Les lapins nous invitent.
Souris-moi, courons vite.
Ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.
Le petit chemin de Mireille par Lara Guirao et Art Mango. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, une nouvelle invention de Léonard par Jacques Jouet. Le jeu des bourrimés pour Jérôme Clément et Hervé Le Tellier, poète du jour. Et la critique des bourrimés selon Eva Almassier et Jean-Bernard Puy. Pour finir, le Merle, roman d'un papou racontée par le papou Patrice Delbourg. Alors, qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Demande maman Vinci à son petit garçon. Le ton est toujours mi-amusé, mi-méfiant. Les mamans sont toujours un peu inquiètes. Mais on ne prête corrige, dit-on. Et Vinci a tant inventé qu'il était tentant, pour Jacques Jouet, de lui attribuer d'autres découvertes comme celle du tapis, de la capote anglaise ou des bretelles. J'en passe. Avant-dernière invention de Léonard aujourd'hui, Jacques Jouet.
Madame de Vinci parle. « Oh, toi, qu'est-ce que t'as encore inventé de rémunérateur ?» Elle parle au petit Léonard qui rentrait de la messe avec des habits tout neufs, un complet blanc impeccable, sans tache, comme s'il sortait du confessionnal, cravate et pince à cravate, bouton de manchette, escarpins vernis, rébanes de soleil, la grande classe quasi sicilienne. « Qu'est-ce que t'as encore inventé qui te fait gagner mieux ta vie à 12 ans et demi que ton père à 45 ? Qu'est-ce que t'as encore inventé ?»« Oh, rien, rien, maman. » C'est vrai ce mensonge? Non mais cette chevalière à ton doigt là, c'est un saphir, je ne me trompe pas. C'est certainement pas avec l'argent de poche que ton père ne te donne pas que tu as pu t'acheter tout ça. Si c'est bien un achat d'ailleurs. J'espère que c'est par des moyens honnêtes que... Tout ce qu'il y a d'honnête, maman. Du moment que c'est commercial, c'est honnête, comme on dit au marché. Mouais, dit Madame de Vinci, au moins c'est bien une invention, j'espère. Une invention totalement inventée. Ne me raconte pas d'histoire, je ne veux pas ravoir la visite d'un plaignant qui nous attaque en justice pour vol de brevet comme celui qui avait inventé avant toi la roue crantée. Ne t'inquiète pas, maman, là, c'est vraiment imprenable. Bon, admettons, alors raconte qu'est-ce que t'as encore inventé. Maman, si tu savais. Quand je saurai, pour le moment, je ne sais pas. Maman, je reviens de la messe. J'espère. Oui, oui, j'étais à la messe. Enfin, je dois t'avouer que je suis resté dehors, sur le parvis. Il fait trop froid à l'intérieur. Je ne veux pas attraper trop tôt la mort. Et puis, en un mot, commençant, lançant, je suis allergique. Et puis, l'histoire des marchands chassés du temple, c'est pas pour moi. Ça fait plusieurs dimanches que j'assiste à la messe depuis le parvis, là où on est très bien à se chauffer au soleil. J'entends les prières, le prêche vaguement, mais je sais où l'abbé veut en venir. Et j'en viens toujours plus rapidement que lui. Quelques longueurs d'avance. Mais pendant ce temps-là, je ne perds pas mon temps. Que se passe-t-il quand les gens sortent de la messe ? Ils sont soulagés. La messe, c'est toujours trop long. Ils n'ont qu'une idée en tête, dépenser les sous qu'ils n'ont pas voulu mettre dans les troncs et rapporter un souvenir à la maison, ou des pâtisseries, des fleurs. Et c'est là que j'interviens. Ah, j'y suis, mon enfant qui a tous les dons, même celui de vendre. Tu leur tires le portrait avec l'église en arrière-plan. Eh bien, ma chère maman, tu y es presque, mais pas tout à fait. Effectivement, j'ai commencé par leur tirer le portrait, mais c'était beaucoup trop fatigant, lent et fastidieux. Je ne pouvais guère, même avec ma technique qui, tu le sais, est assez au point, réaliser que 3 ou 4 portraits, et encore, je devais faire attendre les clients qui piaffaient en plein soleil. Beaucoup n'avaient pas la patience et tournaient les talons en maugréant. Alors qu'est-ce que je me suis dit ? Je vais plutôt vendre des pinceaux. Comme ça, leurs portraits, ils les feront eux-mêmes. « Léonard, mon petit Léonard, mais ils ne sauront pas, ils vont faire n'importe quoi, ça va ressembler à rien du tout !» Ah, je m'attendais à cette critique. Sauf que ce n'est pas tout. J'ai mis au point un certain type de pinceau, dans le manche duquel j'ai inséré une sorte de microprocessus lyophilisé à rétromémoire exponentielle, dont je suis le seul à connaître la formule, et dans lequel je suis parvenu à développer potentiellement l'intégralité de mes savoir-faire picturaux depuis le dessin jusqu'au modelé, sans oublier naturellement la ressemblance et les couleurs. Avec ce pinceau, que je nomme pinceau à selfie, n'importe quel sujet qui a 2 mains gauches peut se faire un autoportrait digne de moi-même. Il suffit de poser sur un coin de son visage les poils du pinceau, et celui-ci, de lui-même, se promène sur toute la face à peindre, il l'analyse en quelque sorte, et cela fait, si on le reporte sur une feuille de papier, sur une toile ou sur un panneau de bois, le pinceau va chercher de lui-même les ingrédients matériels qui concourront à l'exécution de l'œuvre. Le pinceau à selfie, bien sage et qui s'y fie. C'est mon slogan. Depuis 4 dimanches, ma chère maman, j'ai vendu 297 pinceaux à selfie. Le pinceau à selfie est devenu le must. Il n'est pas un Italien qui ne veuille avoir en poche son pinceau à selfie. Il n'est pas un seul touriste de Cipango ou du Nouveau Monde qui ne mette un point d'honneur à user du pinceau à selfie. Léonard, mon petit Léonard, comme j'ai eu raison de passer mes journées devant les fresques de Giotto quand j'étais enceinte de toi. Et pourquoi est-ce que tu tends la main, maman ? Moi, je tends la main ? Bah, on le dirait bien. Ah oui, oui. Tu donnerais pas un peu d'argent de poche à ta mère ?
April March. Et maintenant, place aux rimes de hasard pour des poèmes à notre façon et la critique des bouts rimés. Alors, si vous voulez jouer avec nous, une seule solution désormais, écrire vos histoires sur notre page Facebook, parce que ce n'est plus possible sur le nouveau site de France Culture et nous en sommes navrés. Être interactif sans lieu d'accueil, c'est compliqué, mais voilà, certains d'entre vous ont commencé à poster leurs histoires sur notre page Facebook, et ça marche très bien. Allez, go, rejoignez la bande de ceux qui écrivent. Et pour jouer, il faudra noter les mots tirés au sort, vous podcaster. Des mots qui riment deux par deux, selon bien sûr le sens de la rime de chacun de ceux qui les ont inscrits sur des petits papiers. Eva Almassi, Jean-Bernard Puy, Jérôme Clément, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier. Et les poètes du jour, eh ben justement, Jérôme Clément, Hervé Le Tellier, et ils peuvent très bien tomber sur leurs propres mots. De toute façon, ils ont le droit à trois refus. Après chaque poème, un autre papou se glissera dans la peau d'un critique pour commenter. Alors, première étape, le tirage au sort, c'est parti. Dans ce chapeau, oui, remuez. Dans ce chapeau, il y a des dizaines de mots, peut-être 60 en tout. Je les remue et je les passe à l'équipe Jérôme Clément, Hervé Le Tellier. Qui veut tirer au sort les 5 premiers papiers ?
Main innocente.
Alors c'est Jérôme. Jérôme Clément pour la main innocente. Vous remuez. Alors, entendons-nous bien, il y a des mots de vous, des mots d'Hervé, des mots d'Eva Almassi, de Jean-Bernard Puy, de Jacques Jouet.
D'accord.
Allez, vous tirez un premier papier.
Ils sont tous pareils, les petits papiers blancs. Alors, c'est vraiment le hasard.
Voilà.
Je fouille.
Allez, un premier.
Et je prends le premier. Internet, layette.
Ah oui.
Internet, layette. Ça vous plaît ?
Très pas mal, hein.
Bon, il y a rime féminine avec rime
oui,
masculine.
C'est pas parfait.
Passons. Ce ne sera pas la dernière. Vous savez.
En l'absence de Jacques Vallée pour ce jeu aujourd'hui, nous glisserons. Ouais. Qui a mis ces mots ?
Pas moi.
Ah, Jérôme Clément, Internet, layette.
Voilà.
Ah bon, vous êtes dans les naissances, là ?
J'assume.
Très bien.
Je prends le deuxième. Hein,
oui.
Mordilla, Gazouilla.
Oh non.
Et puis c'est encore du Jérôme Clément, j'ai l'impression.
Bah oui, mais j'y peux rien. Ma main innocente a péché de.
Non, on sait dans quel hôtel il a résidé, puisque tout vient d'une sorte de bloc d'hôtel.
Là, il y en avait deux dans le même, et finalement, j'ai Éolienne, Gaulienne.
Éolienne, Gaulienne.
C'est moi.
Vous prenez,
c'est. Gaulienne,
c'est Gaulienne. Internet, Layette, Éolienne, Gaulienne.
Ah oui, d'accord.
Éolienne, Gaulienne, moi j'aime bien.
Oui, parce que c'est de vous,
ben,
mais
en plus,
autrement.
En plus, c'est de moi, mais ça ne serait pas de moi, je sauterais de joie.
Vous sentez le poème déjà avec ces quatre mots ?
Ah, ben, ouf. Ma layette et Gaulienne, ça va quand même bien ensemble.
Essayez d'avoir la main plus heureuse, Jérôme Clément.
Qu'est-ce que ça va
jouer ? Est-ce que je peux, hein ? Alors, je vais aller tout au fond du chapeau. Bonbon Jarbon. Ah, mais il n'est pas signé.
Ça manque de verbes.
Oui, mais attends. Il y en a 10.
C'est pas mal, c'est enthousiasmant.
Ça va arriver.
Bonbon charbon, c'est bien, moi,
bonbon
je trouve.
Oui, je dirais que c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment, non ? Avec la layette, quand
ça
même.
Ça nous tire vers Bruno Dumont, là, les...
Oui,
c'est
l'idée. Flandres.
Oui. Allez, quatrième papier.
Versailles-Pagaille, c'est JB. Il assume
Versailles-Pagaille.
Pourquoi j'assumerais pas ?
Oui, c'est bien.
Vous c'est prenez... la pagaille à Versailles.
C'est bien qu'il y ait un peu un nom propre, quand même, dans votre histoire, non ?
Mais layette, ça peut être propre.
Pas mal. Allez, je prends le suivant. 1, 2, 3, 4, c'est le cinquième. Warhol, casserole. Ben voilà un nom propre. C'est toujours JB.
C'est JB, ça. Bah oui.
Ah oui, Warhol et casserole. Oui.
Alors, vous allez passer le chapeau à Hervé Le Tellier qui va tirer les 5 suivants. Je vous rappelle que vous avez le droit de refuser 3 couples de rimes.
Alors, je tire ceci. Foualier, escalier.
C'est du Jacques Jouet, non ?
Non. Ça ne demande pas.
Eh bien, Almassi.
Oui.
Foualier, escalier. Bon, il serait assez malvenu de refuser ça. Mmh.
Alors, déblayer, festoyer. Je trouve que ça fait beaucoup de choses en yé. Il y a déjà foyer et
escalier. On refuse.
On refuse.
C'est pour ça
allez,
que je le retirerai.
Donnez-moi ça. Voilà. Ce dommage, sera pour un autre verbe. Jour.
Alors, ah, chat à chat.
Chat à chat. On peut dire que c'est une rime parfaite.
Ah oui.
C'est signé
Eva.
Eva, chat à chat. Moi, j'ai l'impression que Jacques Jouy est venu et n'a rien fait.
Oui, si, mais il y en a déjà eu un de refusé. Hein.
Mais il les plombe, alors ils sont au fond du chapeau.
Prenez-nous un Jacques Jouy.
Alors, c'est quoi ? Moto, les autos.
Voilà.
Un moto, les autos.
Les autos.
Le pays.
Le pays. Le pays.
Ah.
Les autos. Moto, les autos. Ouais.
C'est amusant, les autos, ceci dit, hein, pour la moto. C'est ça.
Je ne sais pas. Bon, ben, c'est vous qui allez faire des poèmes. Hein. Mmh. Vous le gardez ou pas ? Vous avez encore le droit de refuser.
Oui,
de...
moto, les autos. Oui, c'est bien, oui, parce qu'on peut faire des choses avec moto et les autos.
C'est moi qui l'ai proposé, donc j'aurais mauvaise grâce à refuser.
C'est où les autos ?
C'est enclavé dans l'Afrique du Sud.
C'est ça, c'est ancien Rhodésie du Nord. Vertueux, tortueux. Ça, c'est de moi.
C'est ah, un, mais c'est signé.
Ça, c'est magnifique.
Ça.
C'est pas pour me vanter, mais vertueux, tortueux.
On en est à combien, là ?
On était à 9, il en reste encore un.
Allez, dernier coup, alors essayez de choisir.
On le prend au hasard, évidemment.
Non, mais vous n'avez pas pris le même, alors.
Forcément, c'est le principe de prendre tout seul. Hop, voilà, regarde, c'est le nôtre.
Celui-là, on l'a à deux.
Voilà. Cocktail à tel.
Bon, moi, je suis pas très chaud, là.
À tel, le verbe à tel,
Une attelle.
Allez, un autre.
C'est comme ça qu'on termine quand on fait un voyage à moto, hein, mais...
Un autre de Gigi. Alors là, il faut le prendre.
Gigi, ah bah oui,
c'est le premier.
Limite et le célèbre bâton de dynamite qu'affectionne Gigi, dynamite.
Limite et dynamite.
Ah, c'est très bien.
C'est bien ?
Oui, tout est bien.
Non, pas toujours.
Non, mais c'est rare quand il y a vraiment un truc
8, 9, 10. On en a 10.
C'est très bien.
Alors, vous avez donc tiré au sort Internet layette, éolienne gaulienne, bonbon charbon, Versailles, pagaille, Warhol casserole, foualier, escalier, chat à chat, moto, les autos, vertueux, tortueux, limite et dynamite. Eh bien, écoutez, ça va faire quelque chose de résolument moderne.
Oui.
Si vous aviez à travailler sur ce sujet, Jean-Bernard Puy, quel serait le couple qui vous entraînerait dans l'imagination ?
Moi, si j'avais à travailler sur ce sujet, je me casserais tout de suite. Je ne resterais pas. Non, dynamite.
Ah ben, évidemment, c'est votre côté rocker.
Non, pas du tout. C'est mon côté pacificateur. Mon côté Nobel, bravo. Futur Nobel.
Atelier Jérôme oui. Clément, on vous retrouve après cette jolie petite musique qui était censée symboliser votre temps d'écriture. Évidemment, vous avez mis un tout petit peu plus longtemps, vous avez eu une grosse demi-heure quand même, ce qui permet d'écrire des jolis poèmes. On peut réentendre les mots imposés, Hervé Le Tellier.
Absolument. Bon, je vais faire. Internet, layette, éolienne, gaulienne, bonbon, charbon, Versailles, pagaille, Warhol, casserole, foualier, escalier, chat, achat, moto, les autos, vertueux, tortueux, limite et dynamite.
Alors au fur et à mesure du tirage au sort, on n'avait pas une impression formidable de l'assemblage de ces mots, mais finalement, ça a l'air de pouvoir construire une histoire.
Ah bon ?
Ouais, je pense, j'ai confiance. Et on va commencer par Jérôme Clément, parce que j'ai confiance en Jérôme.
Ouais.
Dites-moi, Jérôme, oui, c'est pas bien d'avoir confiance en vous ? Je mets la barre très haut, évidemment, en tenant ma confiance.
Alors, j'aimerais. Il y en a certains qui m'ont donné du mal.
Bon, alors, lesquels étaient difficiles ?
Éolienne et gaulienne, c'était quand même pas évident.
Ça, c'était tout l'apport merveilleux d'Hervé Le Tellier. Et les mots qui vous ont donné envie d'écrire l'histoire que vous allez nous lire ?
Warhol, parce qu'il y avait un héros, c'était le seul nom propre. Donc
ouais.
J'ai dit qu'on pouvait commencer comme ça. et Versailles, l'association des deux. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à en tirer.
C'est toujours, et avec voilà. Jérôme Clément, on est toujours dans le culturel.
Ah,
eh ouais, bon. On n'a pas été président d'Arte pour rien.
Oui. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais bon, si, ce que vous dites.
Ah, si, non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, le titre du poème, et puis peut-être que vous envisagez d'écrire tout un recueil.
Avec les éoliennes et les gaulliennes, j'aurais du mal, mais enfin bon,
non, mais on changera les mots, on changera les mots.
Pas alors, problème.
Le titre du poème, c'est Un intrus dans la ville.
Ouais, bah, c'est un bon titre pour un polar, je trouve, non?
Oui, mais tout est bon pour le polar, n'importe comment.
C'est vrai?
Wow.
Ça dépend du ton.
Un sandwich à la moutarde, c'est un très bon polar. Également.
Et donc, Un intrus dans la ville, ça figurerait dans quel recueil, Jérôme Clément?
L'ivresse de la métamorphose.
Ah là, un peu moins polar quand même.
Ça, ça mais en même temps, un peu Kafka.
Un oui, peu ça fait plus Kafka aussi. Que... Ouais.
Et alors, ça se présente en alexandrin, en octo?
Alors, je ne me suis pas simplifié la tâche parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça, octo.
Oui. Mais avec, c'est toujours très élégant, l'octo. Hein. Ouais.
Avec rime ABBA.
Embrasser, c'est ça.
Embrasser.
C'est comme ça qu'on dit Jacques Jouet.
Exactement.
Embrasser.
Donc, voilà. Vous avez choisi...
Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que
la difficulté, de... mais c'est bien, c'est chic.
Ça aurait été plus simple. Mais enfin, j'ai
ah,
pas
le bon alexandrin bien pépère.
Oui,
bon,
voilà.
Je pense que c'est ce qu'a fait Hervé Le Tellier.
Moi, j'avais bien pépère. Hein. Et ça marche. Voilà.
Ouais. Allez, on écoute Un intrus dans la ville.
Quelle folie saisit ce Warhol. Vous l'avez vu, ce fou allié, monter en hurlant l'escalier et sur la tête une casserole? Voyez déjà cette pagaille sur les tapis, tous ces bonbons et dans les chambres un tas de charbon. Ce cri sans cesse, à bas Versailles. Adieu bourgeois, vive la moto. Ne plus entendre miauler les chats. Oui. Quitter les marchés, vente et achat. Partir, rêver, l'ivresse du Lesotho. Une obsession. Plus d'internet, visage au vent comme l'éolienne, face au destin, posture gaulienne.
Ah oh bah
et voilà. Oui. Voilà, il fallait le trouver.
Il fallait le trouver, et puis oui. Il s'est débarrassé de la layette. j'ai bien vu qu'il n'y avait pas la layette.
Ah la layette. Abandonnant toute layette, ah, j'ai oublié peur. Celui-là. Alors je lis le truc. Une obsession, plus d'internet, visage au vent comme l'éolienne, face au destin, posture gaulienne, abandonnant toute layette.
Voilà, il est content.
J'aime bien ça. Bah oui. Attendez, j'ai eu du mal avec la layette, moi.
Moi, j'ai eu du mal aussi. L'internet et la layette, c'était difficile, c'est vrai. Donc, toi, j'ai mis tout ensemble. Désormais, plus de limites, finis les chemins vertueux, vive les sentiers les plus tortueux, balançons tout, vive la dynamite.
Bon. C'est bien parce qu'il y a un revirement du personnage.
Bah oui.
Subitement, non, c'est non. Ah bah quoi, ouais. Je ne sais plus, mais on prend sa moto. Puis
Versailles,
on s'en va.
Les
quoi.
Achats, les chats, ouais. Il veut les autos, la dynamite. Donc on commence dans la douceur, enfin, même s'il est un peu fou, et puis ensuite on. L'ivresse de la métamorphose.
C'est ça, c'est Koh-Lanta.
C'est aussi beau Koh-Lanta.
Ah oui, ah
bah, ouais, parti. Ah oui.
Je prends ça comme un compliment.
Et figurez-vous, Jérôme Clément, que Intrus dans la ville fait l'objet d'une critique. C'est toujours bien, parce que même si la critique est méchante, ce qui est important, c'est qu'on parle de vous.
Oui, ça c'est vrai.
Et de votre poème.
J'ai eu tellement de mal à l'écrire que je suis quand même anxieux de savoir ce que critique en a pensé.
Figurez-vous que c'est Eva Almassy qui fait des piges un peu à droite, à gauche. Là, je ne sais pas pour quel journal, Eva.
Et alors là, c'est vraiment ni à droite, ni à gauche, mais dans une revue où je fais réellement partie du comité de rédaction.
Ah bon?
Et à laquelle j'ai donné son nom. C'est une revue universitaire de poésie contemporaine qui s'appelle PLS, Place de la Sorbonne.
Ah, mais oui.
Donc c'est très
évidemment. C'est très chic.
Être... Oui, ça va être une critique universitaire presque.
Oui, poésie contemporaine, ça vous va très bien.
Une revue annuelle.
Et donc,
la vie mode d'emploi pourrait aussi bien être le titre du nouveau recueil de Jérôme Clément. Non qu'il soit question d'un immeuble ou de ses habitants, mais parce que il n'est pas non plus question de soi, de lui en particulier. Le titre réel, l'ivresse de la métamorphose, c'est le mot d'emploi qui explique comment, en dehors de toute poésie lyrique d'Archiloque ou de Rutebeuf, jusqu'à nos contemporains chagrins, on écrit un poème aujourd'hui. Notre Clément n'est pas Clément Marot. C'est pas un marrant non plus. Mais enfin, il marche à l'énergie pure. C'est l'ultime métamorphose. Il a tout brûlé. Il a fait feu de tout bois. Laissé tourner toutes les éoliennes. Lui reproche-t-on parfois d'être trop culturel? On a tort, même vous, Françoise.
Mais oui, ah, mais c'était pas un reproche, moi, c'était un compliment. Hein.
Petit, sa maman lui répétait, mange ta soupe. Et c'était la soupe déjà en boîte dans des varoles. Ironiquement, il renverse la casserole entière sur la tête des ancêtres, des modèles, et il écrit entre eux charbon et dynamite avec sa seule énergie toujours renouvelable et explosive. Un intrus dans la ville, un exilé des musées, un oublié de la muse, un exquis, exclu, un déplacé, l'autoportrait caché devient, au fil des poèmes, portrait craché. La métamorphose est métaphore. Clément ne s'est pas raté. Quel chemin parcouru depuis l'immuable sobriété le recueil précédent. Un de ces jours, comme souvent les poètes, comme en France, Eddie Cadour, ou comme Jacques Jouet,
oui.
avec oui. l'amour comme on l'apprend à l'école hôtelière, oui. ou en Amérique, Laura Kosciuszko, il va nous surprendre avec un gros roman, aussi gros que la vie mode d'emploi. On l'attend au tournant. Il y a de la matière.
Oh, dites donc, qu'est-ce que c'est élogieux, ben hein.
Oublier de la muse, c'est moyen.
Oublier de la muse.
Ah non, 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 non. Mais... C'est un de ces poèmes du recueil. Ah non, alors il fallait lire les italiques.
Des critiques comme ça, j'en veux tous les jours. Hein.
Oh, vous allez
mais c'est une revue annuelle, comme je l'ai dit.
Et vous êtes dans le seul numéro de l'année, vous vous rendez compte.
Voilà,
vous allez scotcher ça là, sur le mur en face de votre lit.
C'est un voyage au long terme, absolument. Je vais l'afficher et puis tous les jours remercier la critique. La prendre par cœur pour le réciter.
Alors, Hervé Le Tellier, vous étiez confronté avec les mêmes rimes.
Oui.
Mais alors, je suppose, Hervé Le Tellier, que vous n'avez pas pu échapper à la violence, parce que quand on vous offre le mot dynamite, de toute façon...
Non, c'est une violence sourde.
Ouais, oui, alors, le titre...
C'est « Toi dans la gare Saint-Lazare ».
Toi, c'est déjà une histoire d'amour, non?
Ça commence pas comme une histoire d'amour, mais c'est un livre qui va s'appeler « Monopoline », et donc qui se déroule dans toutes les rues et cases du Monopoly. Et,
oui.
Et donc, à chaque fois... créer une situation et faire apparaître ma bien-aimée.
Donc c'est un poème très olypien.
C'est un poème très parisien, oui,
oui.
Et qui se déplace, je commence dans les violets, je vais vers les bleus ensuite, vous voyez, puis les marrons, enfin voilà.
Oui.
Je remonte jusqu'au bleu, jusqu'à la rue de la Paix.
Oui, voilà.
Les Champs-Élysées.
Et ça se présente donc en alexandrin pépère, comme vous l'avez
en
dit,
en alexandrin pépère.
Oui.
Absolument.
Exactement. Non, mais on peut dire que Victor Hugo faisait de l'alexandrin pépère, non, Jacques Jouet?
Oui, mais il ne les faisait pas comme Hervé.
Non,
on a deux,
j'ai beaucoup discuté avec Victor, on a deux méthodes très différentes.
Il y a pépère et pépère, ouais, c'est ce que vous voulez dire, Jacques Jouet.
Et donc, il y a un mot qui m'a inspiré.
Lequel?
Pagaille.
Et un mot qui vous a un peu dérangé, c'est l'Iliade, comme vous venez de le dire.
Non, mais finalement, je l'ai casé.
Oui.
Enfin, il m'a un peu dérangé à un moment donné, et puis finalement, il y a toujours une solution.
Oui.
La grève cheminote avait mis la pagaille. Il n'y avait plus un train qui partit pour Versailles. Un grand noir au piano jouait du Sakamoto. Son t-shirt disait « I love les Soto ». Une pub tournoyante montrait des casseroles de toutes les couleurs telles un Andy Warhol. Tous pianotaient en vain sur le site internet sncf.com, logo couleur layette. La patience usagère atteignait ses limites. La gare Saint-Lazare était en dynamite. Certains banlieusards devenaient fous alliés, d'autres sanglotaient sur les marches d'escalier, et d'autres se faisaient rembourser les achats, c'était un vrai foutoir, j'appelle un chat, un chat. La grève, c'était sûr, à l'écouter bonbon. Soudain, tu apparus, les yeux couleur charbon, comme la de Mongeau de l'époque gaulienne, belle telle le Stromboli des îles éoliennes. Le destin avait pris un chemin tortueux, le poème prend fin, manque un mot, vertueux.
Ah, c'est très bien. Vous voyez, dans les pires choses, la grève des trains,
il y a toujours des solutions.
Ça embête tout le monde quand il y a toujours des solutions. Il y a un rayon de soleil.
Des rayons de soleil au bout de quai.
Ah ouais. Mmh. Et vous l'avez gardée ?
Bien sûr.
Elle est restée.
Bah, oui, il n'y a plus de
pour
train.
Pour le moment.
Et en plus, je sais que le Stromboli fait partie des îles éoliennes, ce qui est quand même.
Ah non, mais nous avons affaire à deux poètes très cultivés.
Un vulcanologue.
Distingué.
Bon, Jérôme Clément a une superbe critique de la part d'Eva Almassy, mais je crois que vous aussi.
C'est une critique, hein.
Mais oui, ça a l'air de vous étonner.
C'est-à-dire que je vois que ça a été confié malheureusement à un abonné de La Vie du Rail.
C'est Jean-Bernard Pouilly qui s'en est occupé.
Ayant pris pagaille et Kirin avec
tout,
La Vie du Rail.
Critique littéraire à Grazia.
Ah bah ça va.
Oh bon,
bah,
c'est bon.
C'est un journal que t'aimes bien.
Okay. Oui, c'est un journal que je lis régulièrement.
Et donc Jean-Bernard Pouilly, toi dans la gare Saint-Lazare, c'est sublime, non?
C'est, ouais, à peu près.
À peu près, oui. Le mot est très adapté.
À peu près, ouais. Parce que Hervé Le Tellier ne nous décevra jamais.
Non.
Tout ce qu'il touche, tout ce dont il parle, tout ce qu'il évoque, que ce soit la gare Saint-Lazare en folie, le Lesotho en t-shirt ou le Stromboli en feu, se termine par l'amour.
Ah. Oui.
L'amour fortuit, imprévu, l'amour rencontré, l'amour retrouvé. HLT devient peu à peu le Giraldi de notre temps, voire la Marceline des bords de Valmore de notre époque bousculée.
Minou Drouet.
Ah, c'est salaud.
Un poème, toi dans la gare Saint-Lazare.
Marceline, c'est pas mal. Marceline, ça va mal.
Giraldi,
oui,
Giraldi.
Oui,
Giraldi,
c'est un peu ça.
Giraldi, c'est très beau. Baisse un peu la valeur.
Oui.
Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse donc la fenêtre ouverte.
Il aime, il connaît par cœur, alors.
C'est ça qui est étonnant.
C'est pas une critique.
Un poème. Toi dans la gare Saint-Lazare, de ce recueil, Monopoline, est tout à fait représentatif de son style, si recherché par les grandes amoureuses et leurs chevaliers servants. Mais là, pas besoin de passer par la case départ pour toucher le cœur des midinettes et des grands couillons qui les regardent énamourés. La rencontre survient toujours. Mais dans la case prison, toi dans le parloir de Feury Mérogis, très très beau poème de ce recueil. Certes, les tropes et métaphores sont parfois un peu ahurissantes, belles comme le Stromboli,
ouais.
Belles comme de Mongeau. Et l'on aperçoit ici encore sa passion pour l'époque gaulienne et pour le général, dont il a dit un jour qu'il le préférait à Aragon, question grand sentiment. On sait que l'amour, pour Hervé Le Tellier, est sans issue, puisqu'il est toujours recommencé, puisqu'il ne se suffira jamais à lui-même. Il doit être en soi, peu importe qu'il soit vécu longtemps. Il ne dure que la saison des fleurs vénéneuses. Mais il est fort. Mais il est fort, prégnant, incontournable. Chaque lectrice le sait, le sent, espère qu'elle va croiser un jour, un soir, dans une gare, dans un bistrot ou un hall de Pôle emploi, le beau Hervé Le Tellier. La poésie est un espoir. Ce qui la fait vivre, elle, ce qui le fait écrire, lui. Chacun y trouve son compte. Et peut mettre un hôtel sur sa route.
Hôtel AUT.
Non, hôtel rouge. Peut mettre un hôtel sur sa route. Et peut aussi passer par la case départ pour toucher l'absolu.
Moi, je lis cette critique, j'achète votre recueil.
C'est ce qui se passe à Caisse de Communauté. La vraie question pour l'amour, c'est Caisse de Communauté.
Oui. Non, mais vous tirerez les cartes chance.
Oui.
Sergi, mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin, c'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, Sergi. Serre-moi une mélodie, façon nostalgie, nostalgie, la ciudad. Je l'aime autant que je l'aime maudit.
même s'ils ont repeint les murs de la gare en gris. Ils ont rasé le quartier de la Croix-Petite. Garçon, resserre-moi une mélodie. Fleur de bitume, papy sans lit. Les embouilles un peu tombées. Les petites combines pour tuer l'ennui. Le tête en duty-free. Malheureusement, la chenouf aussi, mais bon, faut plus que ça pour pourrir le tableau. Les années pentos, oublie à mes potos. Winner, loser, taffeur, chômeur et tapeur. Mes chers potos sont tous dans mon cœur. Au 6 grands plats, j'ai déboulé. J'ai troqué les champs, les poulets, les vaches salées. Pour la vie au champ, les vigiles et les poulets. Les pots d'échappement, ouais, c'est sans regret. J'suis pas né dans le Missouri. J'suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, Cergy. Mon petit paradis, ma sweet banlieue pouille. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mi. Pas le Danube ni le Mississippi. Ici c'est Cergy, oh Cergy.
Sergi Paranis. Dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête sur France Culture, quand un papou raconte un livre des papous et son auteur. Alors, Jean-Bernard Pouy a quitté le studio pour déjeuner avec quelques autres papous, et ça tombe bien, car aujourd'hui, Patrice Delbourg nous parle de lui, de JB, comme on dit entre nous, de Monsieur Pouy.
De Monsieur Pouy et de son dernier opus, Le Merle, aux éditions de La Talente. À Nantes. Le précieux bipède Pouy se rencontre souvent entre une clé de 12 et une fleur de rhétorique. Bricolage solidaire et esthétique de style, c'est tout lui, ça, le Pouy. Pas très à l'aise avec les hommages et les compliments, le citoyen Pouy compisse toute convenance avec le bolduc, les flafla. Il affectionne plutôt les voyages solitaires en train de traverse. Il rassure ses amis, est très patient avec les enquiquineurs et s'avère un saint homme avec sa famille. C'est son côté Pouy de lumière. Plus punk que jazzy, là, il peut énerver son entourage. Comment peut-on en effet préférer les Ramones à Miles Davis? Mais ça, c'est une autre histoire. Chevalier des lettres discret, mais farouche et indomptable dans ses fondamentaux, il peut démarrer une utopie au quart de tour. Jugez plus tôt. Un soir, il entend dans un raout d'arrière-saison quelqu'un s'écrier fortement, et non sans une certaine affaîtrie, « N'importe comment aujourd'hui, il n'y a qu'une seule littérature, la littérature allemande !» Après avoir encaissé cette déclaration téméraire autant que hasardeuse, notre Pouy d'amour décida de prendre place un jour sur les rayonnages de littérature rhénane, de pondre un cousin germain. Il crée sur le champ un écrivain nommé Arthur Kilt, auteur d'un seul ouvrage culte, Le Merle. On tremble si quelqu'un s'était écrié alors « Il n'y a de bon bec que littérature kirghize, kalmouk, tatar, ouzbek, bambara ou patagonienne. » Il s'y serait collé aussitôt le bougre. C'est son côté Pouy du fou. On jurerait d'ailleurs avoir déjà vu le manuscrit du Merle circuler dans les mains de Jean-Pierre Daroussin dans l'adaptation cinématographique du Poulpe. Un de ses multiples rejetons de papier. Très discret sur les coulisses de sa création littéraire, le Pouy pratique couramment la pêche aux anges, l'élevage de la Belle de Fontenay sous serre, cisèle, calembour et homophonie approximative, se décrit sobrement comme un styliste pusillanime, hanté par un quenot qui jouerait dans son jardin d'hiver avec les roubignoles du destin. Comprenne qui peut. Le Pouy fumé, comme le Pouy fuissé d'ailleurs, initie, crée, met en place et s'esquive. Le seul fait d'avoir donné le mouvement premier lui suffit. Sous sa coiffure Playmobil, jamais il n'enfile des habits d'écrivain industriel. Tout juste admet-il le qualificatif d'auteur. Dame avec quelques 120 titres au compteur, plus 350 nouvelles, c'est la moindre des choses. Pas le genre à faire part de ses angoisses de création, des affres de la page blanche. Pour son dernier parallélépipède intimidant paru chez Gallimard, ses 5 romans des années 80-90, réunis sous le titre « Tout doit disparaître », il précise rigolard qu'il n'a rien demandé, mais assure que ça sent déjà le sapin. Avec son palpitant militant d'ananar, ce fils de cheminot sait que la vie, c'est du rail. Grand admirateur du galbe d'Elsa Martinelli et de quelques stars latines des années dorées, il crée tous azimuts comme il respire. Naguère la revue Tekel, avant de songer à l'étang moderne, l'apostrophe. La série grise, pendant de la série noire pour les seniors, avec des titres comme « À l'aise, rien de nouveau », « Les hommes préfèrent les sondes » ou ou « Démons et vermeils ». Ce qu'il aime surtout, ce doux Lascar, c'est de ne jamais être là où on l'attend. Enfant du marais, derrière la Bastille, il aime à fréquenter les derniers rades qui sont encore dans leur jus et où coulent quelques breuvages aligotés au fond des ballons perdus. Grand satrape du cercle polar, il donne généreusement, j'en ai profité, à ses contemporains toutes les indications pour s'y retrouver dans la brousse du continent noir, de Gobineau à Chandler, de Walpole à Chase, de Goodis à Brottigan, un vrai GPS du thriller, le gars du bâtiment. Et le merle d'Arthur Kilt, me direz-vous.
Oui.
Mais
oui.
J'y viens. Ah ben oui. J'y viens sensiblement en 15 ans, de traducteur JB devenu l'auteur de l'ouvrage. Et l'histoire donc, trépignez-vous. Biblique, si l'on peut dire. Un professeur linguiste, tendance bouddhique atypique, vit en ermite dans un refuge de montagne fridolin, le Hochschwab, à moins que ce ne soit l'Ebenstein, où il cherche des formes intelligibles aux nuages. Il adopte un joli merle noir qui répond au nom de Witt et qui s'adonne à des trilles vertigineuses et toujours différentes quand il ne roupille pas sur son perchoir. L'écrivain en profite aussi pour tourner en dérision la métaphysique des cimes, sacripouille. Lui qui ne pratique pas d'un umlaut la langue de Hölderlin, de Schiller, de Kafka ou de Thomas Mann. Ici, dans le Merle, il est beaucoup question des crotales du désert Mohave, des eugmes en transhumance d'un tableau de Chardin baptisé l'arrêt. Oh. Ça, c'est une de ses obsessions. L'arrêt, pas celui du bus, mais celle au beurre noir. Et le personnage, pour se détendre, donc le personnage du Merle, le moine bouddhique, fait souvent le tour de sa cabane sans respirer sur un vieux vélo rouillé. À ce propos, signalons la reparution de 54-13, un monologue hors d'haleine qui nous entraîne dans les pensées d'un petit coureur échappé devant le peloton du Tour de France. Toujours chez le même éditeur, les fiers mariniers de la Talente, deux jolis biscuits nantais.
On aura reconnu dans le texte de Patrice la plupart des œuvres de Jean-Bernard Pouy qu'il a,
oui, bien
a glissé
sûr,
élégamment
bien
les
sûr,
titres.
Bien sûr,
et
saupoudré, oui.
Alors, Le Merle, c'est un livre formidable pour tous les gens qui sont seuls et désespérés de l'être. Parce que c'est le bonheur d'être seul. Alors, vous lisez ça et vous découvrez que finalement, la solitude est féconde et joyeuse.
Qu'on est bien.
Donc, c'est un antidépresseur puissant, ce petit livre blanc.
Il voulait l'appeler Temesta, d'abord.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. Un numéro à podcaster sur franceculture.fr pour vos archives et la réécoute à la page des papous. Vous découvrirez le dessin du jour de Ricardo Mosner en écho au poème d'Hervé Le Tellier avec les rimes de hasard. Amour à la gare Saint-Lazare, un jour de grève. Alors c'est à votre tour d'écrire aussi des poèmes avec les mots imposés. Vous les postez sur notre page Facebook en commentaire du jour. Au revoir, passez un très bel après-midi sur France Culture. Vous y serez toujours en bonne compagnie.
Quoi, quoi ?